Chapitre 7. L'autobus sortit de leur zone, à l'opposé de la direction du stade. Il emprunta des rues mal éclairées pour atteindre la périphérie de la ville. Après plusieurs fingues, ils approchèrent d'une grande porte close, presque identique à celle qu'ils avaient franchie pour entrer dans la cité d'Émeraude. Deux octopodes vinrent regarder dans le véhicule. Archie leur parla et l'un d'eux se dirigea vers ce qui devait être un poste de garde. Richard vit des couleurs clignoter sur un mur. « Elle demande une confirmation aux autorités », dit le docteur Bleu. « Nous sommes en retard et notre code de sortie n'est plus valable. » Pendant une attente de quelques niais, l'autre octopode monta à bord et inspecta la cabine. Les humains n'avaient encore jamais été témoins de telles mesures de sécurité dans la cité d'Émeraude, pas même à l'entrée du stade. Le malaise d'Ali grandit quand le garde ouvrit son sac pour répertorier son contenu. Finalement, il le lui rendit et les laissa. Les vantaux s'ouvrirent et ils sortirent du dôme. Moins d'une minute plus tard, ils s'arrêtaient sur une aire de stationnement où se trouvait déjà une quarantaine de véhicules. Deux lucioles vinrent éclairer leur chemin dès qu'ils descendirent.
« Nous sommes dans le quartier des Arts », expliqua le docteur Bleu. « C'est avec le parc zoologique le seul secteur fréquenté par les habitants de la cité d'Émeraude. Les optimiseurs refusent les laissez-passer pour les autres zones. En fait, la plupart d'entre nous ne connaissent du domaine de l'alternative que ce qu'ils ont pu voir pendant la dernière semaine de l'évaluation. »
Ici, l'air était plus vif que sous le dôme. Les humains n'avaient jamais vu les octopodes marcher si vite.
« Nous devons nous hâter, » dit Archie. « Nous sommes en retard. »
Ils approchaient d'un secteur illuminé. Archie et le docteur Bleu se placèrent de chaque côté du trio humain.
« Nous allons traverser la place des artisans, » annonça le docteur Bleu. « C'est là que les alternatifs transfèrent leurs œuvres artistiques. »
« Ce qui veut dire ?» s'enquit Nicole.
« Ils ont besoin de crédit pour leur nourriture et autres produits de première nécessité. Ils proposent le fruit de leur travail aux résidents de la cité d'Émeraude. »
Nicole eût aimé poursuivre cette conversation, mais les étranges objets exposés sur les étals improvisés et la foule d'octopodes et d'autres créatures attirèrent son regard. La place était séparée du théâtre où ils se rendaient par une large avenue. Archie et le docteur Bleu tendirent un tentacule dans le dos des humains pour leur faire traverser comme un seul octopode ces lieux où il régnait une vive animation. Plusieurs de leurs congénères vinrent présenter des objets qu'ils souhaitaient transférer. Les humains obtinrent la confirmation que les alternatifs ne respectaient pas les normes en vigueur dans la cité d'Émeraude, pas même sur le plan du langage. La largeur des bandes de couleurs manquait de régularité et ils s'exprimaient par des successions de taches colorées imprécises. Un des démarcheurs qui les aborda était de petite taille, de toute évidence un juvénile, et, après qu'Archie lui eut fait signe de s'écarter, il terrifia Ali en enroulant un tentacule autour de son bras. Archie le saisit et le projeta brutalement hors de leur chemin, en direction d'un octopode avec un sac en toile en bandoulière. Un policier précisa le docteur Bleu. Nicole devait presser le pas et retenait son souffle. Si la plupart des objets la laissaient perplexe, elle reconnaissait et appréciait des tableaux, des sculptures et de petites figurines des animaux qu'elle avait vus dans la cité d'Émeraude. Un espace était réservé à une exposition de parchemins couverts de motifs colorés. Lorsqu'ils seraient à l'intérieur du théâtre, le docteur Bleu lui expliquerait que cette forme d'expression artistique mêlait habilement poésie et calligraphie. Ils allaient traverser l'avenue lorsqu'elle remarqua sur un mur une grande fresque d'une impensable beauté. La technique de l'artiste était impressionnante, mais Nicole était surtout fascinée par les émotions qu'elle lisait sur les faces des nombreuses créatures représentées. l'optimisation triomphante,
lut-elle dans les couleurs du sommet du tableau. On y voyait un vaisseau spatial sur un fond d'étoiles, un océan grouillant d'êtres vivants, et aux extrémités, une jungle et un désert. Au centre, un énorme octopode qui tenait un bâton se dressait sur une pile d'animaux disparates qui se tortillaient sous ses tentacules. Le cœur de Nicole manqua un battement lorsqu'elle crut reconnaître parmi les êtres ainsi écrasés une jeune humaine basanée aux yeux bleus et aux cheveux bouclés.
« Regardez là-bas »
cria-t-elle à ses compagnons. Mais leur attention était accaparée par une petite créature qui essayait de happer leurs pieds. Les deux octopodes la saisirent et la posèrent derrière eux avant de repartir. Nicole tourna la tête pour s'assurer que son imagination ne lui avait pas joué un tour, mais en raison de la distance, elle ne discernait plus les traits du personnage.
« Comment serait-ce possible ?»
se demanda-t-elle lorsqu'ils entrèrent dans le théâtre en rond. Troublée, elle ne prêta guère attention aux explications que Richard fournissait à Archie sur son nouveau modèle d'interprète. Et quand ils eurent pris place dans la cinquième rangée et que le docteur bleu désigna le secteur où attendaient Jamie et les autres candidats, elle ne regarda même pas.
« J'ai dû me tromper »,
se disait-elle. Elle eût aimé pouvoir ressortir afin de vérifier, mais elle n'avait pas oublié les recommandations d'Archie.
« J'ai vu une femme »,
conclut-elle, pendant que trois grosses lucioles descendaient se positionner à l'aplomb de la scène.
« Mais qu'est-ce que ça peut bien signifier ?»
La représentation durait un peu plus de deux woden et nul entr'acte n'interrompait l'action. Il y avait constamment un ou plusieurs acteurs en scène. Nul décor ou costume n'était utilisé. La pièce débutait par la présentation des sept principaux personnages. Deux juvéniles de sexe opposé, leurs parents adoptifs respectifs, et un mâle alternatif qui s'exprimait par des flots de couleurs magnifiques s'écoulant jusqu'au bout de ses tentacules. Les spectateurs eurent au fait de comprendre que les deux juvéniles étaient des amis d'enfance qui venaient de se présenter à l'évaluation et qu'en dépit des sages conseils de leur tuteur, ils avaient tous deux opté pour une sexualisation immédiate.
« Je désire avoir un enfant de mon compagnon de toujours »,
déclara la jeune femelle dans son premier monologue. Ce fut tout au moins ce qui s'inscrivit sur l'écran de l'interprète de Richard, qui, enthousiasmé par les performances de la dernière version de son appareil, fit d'innombrables commentaires, se souvenant sitôt après que les octopodes étaient sourds. Les parents se regroupèrent au centre de la scène et exprimèrent leurs inquiétudes sur ce qui se produirait quand leurs enfants adoptifs seraient en proie aux émotions violentes qui accompagnaient inéluctablement tout désir sexuel. Dans un souci d'équité, ils admirent toutefois que, faute d'être sexués, ils ne pouvaient fonder leur opinion sur leur vécu. Après un woden, les deux jeunes s'isolèrent aux extrémités opposées de la scène et le spectacle pyrotechnique des lucioles ainsi que quelques répliques des acteurs permirent aux spectateurs de comprendre qu'ils avaient cessé d'absorber du sucre inhibiteur et se retrouvaient seuls dans une sorte de royaume de transition. Quand les deux octopodes désormais sexués se jetèrent dans les tentacules l'un de l'autre, leur façon de s'exprimer s'était déjà altérée. L'effet était spectaculaire, car non seulement les couleurs étaient plus vives qu'avant, mais les bandes d'une largeur jusqu'à présent irréprochable se chevauchaient. Ils furent rejoints par une demi-douzaine d'autres octopodes, des alternatifs à en juger par leur langage, et par deux saucisses à pattes qui pourchassaient tout ce qu'elles voyaient. Il était évident que les deux juvéniles vivaient à présent dans le domaine de l'alternative. Entrée côté court, du mâle alternatif présenté en levée de rideau. Dans une explosion de couleurs, des motifs tape à l'œil qui défilaient tant horizontalement que verticalement, puis des ondes de dessins géométriques et même des feux d'artifice multicolores explosant
Autour de sa tête, le nouveau venu séduisit la jeune octopode qui abandonna son ami d'enfance. Quelques nids plus tard, le vieux séducteur, certainement le père du bébé que la femelle transportait dans une bourse ventrale, l'abandonna en pleurs pour reprendre l'interprétation que Richard donnait au fait qu'elle se fût assise dans un coin pour émettre des impulsions de couleur indéfinissable. À ce stade de la pièce, le juvénile mâle qui avait été évalué au premier acte apparut sous les lucioles, vit l'ex-objet de son amour berçant son bébé et bondit dans les ténèbres des coulisses. Il revint un instant plus tard avec l'infâme corrupteur et les deux mâles se livrèrent un combat horrible mais fascinant. La tête nimbée d'une débauche d'épithètes colorées, ils se rouèrent de coups, se tordirent les tentacules et tentèrent de s'étrangler pendant un bon feng. Le jeune mâle dut remporter la victoire, car à la fin de l'action, le vieil alternatif ne se releva pas. La tristesse exprimée par les dernières répliques du héros et de l'héroïne confirmait la morale de cette histoire. Richard lança un coup d'œil à Nicole et Ali, puis déclara avec un sourire irrévérencieux, « Encore une de ces œuvres déprimantes où, comme dans Othello, tout le monde meurt à la fin. » Sous la surveillance de gardiens qui avaient des sacs en bandoulière, les candidats sortirent du théâtre. Ils furent suivis par Archie, le docteur bleu et les humains. Sitôt à l'extérieur, tous s'arrêtèrent pour former un cercle autour de trois octopodes. Les puissants tentacules de leurs amis poussèrent Richard, Nicole et Ali jusqu'au premier rang des curieux. Deux des inconnus avaient un sac et un bâton. Le troisième, recroquevillé entre eux, émettait un message aux couleurs brouillées.
« Aidez-moi par pitié !»
Elle n'a pas gagné un seul crédit depuis qu'elle a opté pour le domaine de l'alternative, expliqua un policier. Au cours du dernier cycle, elle a été informée qu'elle devenait une charge intolérable pour la communauté et il y a peu, deux jours avant la fête de l'abondance, elle a été convoquée pour son élimination. Au lieu de se présenter, elle s'est dissimulée parmi les alternatifs. L'octopode accroupi bondit vers le cercle de badauds. La foule recula et Ali fut projeté sur le sol dans la mêlée qui s'ensuivit. Moins d'un nid plus tard, les policiers aidés par Archie et divers juvéniles avaient capturé la fugitive. Il n'existe pas de crime plus grave que se soustraire à son élimination, dit le policier. La pénalité est une exécution immédiate. Il sortit de son sac d'étranges vers qui se contorsionnaient. Quand il voulut les lui faire avaler, l'insoumise se débattit, mais lorsqu'ils l'eurent rouée de coups de bâton, elle s'effondra entre eux. Ali hurla lorsque les invertébrés rampèrent dans la bouche de la malheureuse et qu'elle commença à vomir. Sa mort fut heureusement rapide. Les humains ne dirent pas un mot alors qu'ils regagnaient avec Archie et le docteur bleu l'aire de stationnement. Le choc avait été si grand que Nicole en oublia de regarder la fresque. Au milieu de la nuit, Nicole n'avait pu trouver le sommeil. Elle entendit un bruit dans le séjour et se leva, puis enfila sa robe de chambre. Ali était assise sur le canapé, dans le noir. Nicole s'assit près de sa fille et prit sa main dans la sienne.
« Je n'arrive pas à dormir, maman. C'est trop horrible. J'ai l'impression d'avoir été trahie.
« Je sais, Ali. Je ressens la même chose.
Je croyais connaître les octopodes. J'avais confiance en eux. Je les trouvais supérieurs aux hommes dans bien des domaines, mais...
Nous avons tous été horrifiés, même Richard. Mais il m'a dit que cette exécution avait dû être organisée pour l'édification des candidats et qu'il ne fallait pas sauter à des conclusions hâtives. »
Je n'avais encore jamais assisté à un assassinat. Et quel était son crime? Ne pas s'être présenté à son élimination?
Nous ne pouvons les juger comme s'ils étaient des hommes.
Il s'agit d'une espèce différente, avec une organisation sociale plus complexe que la nôtre. Aurais-tu oublié qu'ils ont sauvé Éponine et qu'ils nous ont fait bénéficier de leur technologie lorsque nous nous inquiétions pour la naissance de Marius?
Non, mais je me sens aussi frustré qu'au Nouvel Éden, quand je me demandais comment mes semblables pouvaient accepter d'être gouvernés par un tyran tel que Nakamura. Tout laisse à supposer que les octopodes ne valent pas mieux que nous.
Nicole serra sa fille contre elle.
Il n'existe pas de réponse toute faite,
pensa-t-elle. Elle réfléchit à tout ce qu'elle avait vu au cours de la soirée, y compris ce qu'elle avait cru être la représentation d'une humaine dans une fresque peinte par des octopodes.
Alors, vieille gâteuse, est-ce la réalité ou un fruit de ton imagination destiné à semer la confusion dans ton esprit ?